Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. J-2 avant une rencontre historique, la demi-finale France-Maroc mercredi prochain lors du Mondial de football. Sur ce magnifique parcours de l'équipe marocaine et sur les performances des champions du monde en titre, nous écouterons le journaliste togolais, directeur d'Africa Top Sport, Franck Orokoti. Une adolescente palestinienne a été tuée lors d'un raid de l'armée israélienne. C'est arrivé à Jenin, en Cisjordanie occupée. Une exécution en public en Iran, un homme condamné en lien avec les manifestations qui secouent le pays depuis près de 3 mois. Il y a 17 ans, l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth, Gebran Tueni, lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise. C'était vendredi dernier, la journée nationale de la laïcité. Nous y reviendrons avec l'ancien rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité, Nicolas Cadenne. La fin ce lundi du procès de l'attentat de Nice après plus de 3 mois d'audience. L'attaque au camion Bélier le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Une affiche exceptionnelle, mercredi prochain à 20h. Il s'agit bien sûr de la demi-finale France-Maroc lors du Mondial de football au Qatar. Le Maroc est devenu samedi dernier le premier pays africain et le premier pays arabe à atteindre ce stade lors d'une Coupe du Monde de football. Entretien avec Franck Orokoti, journaliste sportif, directeur d'Africa Top Sport au Togo.
Le Maroc a des arguments, surtout défensifs, à faire valoir. Donc, depuis le début de la compétition, le Maroc n'a encaissé un seul but après 5 matchs. Et le seul but encaissé également était un but contre son camp. Donc, cela veut dire que le Maroc est solidement fort en défense. Donc, ça sera très, très compliqué pour la France de franchir les derniers rideaux proposés par le Maroc. Et là, je pense que le Maroc a des arguments... surtout défensif. Quand vous voyez un peu les joueurs marocains, vous comprenez qu'ils ont du caractère, ils ont également la volonté, parce que moi je pense qu'à un niveau de la Coupe du Monde, ce n'est pas forcément le choix tactique qui parle, mais plutôt c'est le caractère et la volonté, surtout la responsabilité donc, de ces joueurs de s'identifier dans leur couleur. Je crois que c'est ce que également les Croates avaient fait à un moment donné où ils ont été dominés par le Brésil. Quand vous voyez un peu le jeu de Modric, on ne sait même plus où il se positionne. Des fois, il vient donc au niveau de la ligne défensive. Des fois, il se retrouve en attaque. Donc là, le joueur a pris toutes ses responsabilités pour, c'est-à-dire pour se sacrifier d'abord, se dépasser et pour justement donc terrasser l'adversaire. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça ne sera plus un choix tactique, mais plutôt le jeu va se baser sur le caractère et la volonté des joueurs.
Vous avez évoqué le caractère, la volonté des joueurs marocains, la défense également des Lions de l'Atlas. Sinon, quels sont les autres atouts respectifs des deux équipes, des Lions de l'Atlas et des Bleus?
D'abord, au niveau des Lions de l'Atlas, on peut dire que d'abord l'entraîneur. Vous le voyez un peu, même au niveau des déclarations, au niveau des conférences de presse, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a la tête sur ses épaules. Vous comprenez qu'il est venu pour chercher quelque chose donc, à cette compétition. D'abord, c'est un atout majeur pour justement les Lions de l'Atlas. Et à son arrivée, il a fait venir Ziyech, même si on peut le dire, hein, le coach serbe qui était à la tête, qui avait donc obtenu la qualification des Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde. Il a fait un bon boulot, mais il faut dire que ce coach-là également a fait venir Ziyech, qui est un atout important pour justement cette sélection africaine. Mais de l'autre côté, il faut compter également avec une France qui est victorieuse, qui est championne en titre hein, de cette Coupe du Monde. Une France qui, cette dernière édition, a joué le haut niveau donc, de cette Coupe de la compétition. Je pense que la France a des arguments, surtout avec Mbappé, qui n'a pas pu marquer contre l'Angleterre. Je crois que lors de cette demi-finale, il va essayer de tout faire pour justement donc prendre ce point donc, qui leur permettra donc de franchir le cap du Maroc. Mais attention à cette France parce qu'ils ont déjà connu un revers contre une sélection africaine qui est la Tunisie. Donc attention, c'est vrai que sur le papier, on peut dire que la France est largement favorite du gardien de but Loris, de la défense avec Varane et pratiquement tous les joueurs du milieu de terrain, Tchouaméni, tous ces atouts-là. Je crois que la France est largement favorite par rapport à ce match, mais attention surtout à cette formation marocaine qui a des dents longues par rapport à cette compétition. Attention vraiment justement donc à cette sélection qui, il faut le souligner également, qui est supportée par tout le monde, même les pays arabes. Vous savez que la compétition se passe dans un pays arabe qui est le Qatar. Donc, il se voit dans cette sélection marocaine. Les pays africains également s'identifient donc au Maroc. Donc, Maroc a pratiquement des supporters derrière. Mais la France également, puisque moi je le dis depuis le début de la Coupe du Monde, à part les pays africains, je supporte également la France parce que je me vois dans les joueurs qui évoluent donc dans cette sélection africaine. Mais ici, à ce niveau, il faut compter véritablement avec cette formation marocaine.
Là, vous supportez les deux pays, la France et le Maroc, pour mercredi prochain.
Oui, ça serait très compliqué de faire un choix direct.
Quoi qu'il arrive, vous serez heureux.
Je serai heureux du moment où il y a quand même un pays que je supporte qui va jouer la finale. Ça, c'est clair. Ce que j'aurai évidemment le plaisir de supporter. Il faut toujours avoir cette envie donc, d'aller loin. Donc, ils vont prendre plaisir sur cette rencontre-là.
Parce que vous l'avez dit, hein, vous qualifiez la France de favorite sur le papier. Jusqu'à présent, le Maroc a déjoué tous les pronostics.
Oui, d'abord dans sa poule. Vous savez, c'est une poule qui est très relevée avec la Belgique, la Croatie, le Canada. Et sortir premier de cette poule, déjà, c'est déjouer tous les pronostics. Parce qu'au départ, on croyait que c'est la Belgique et la Croatie qui va sortir de cette poule. D'abord, ils ont terrassé ces deux pays en faisant match nul avec la Croatie d'abord, en battant la Belgique par 2-0, en battant également le Canada par 2-1, avant de se retrouver devant le grand Espagne et qui a des joueurs pétris de talent, des joueurs qui sont très bons individuellement et collectivement parce qu'ils respectent justement les consignes du coach. Mais ils s'en ont sorti avec justement un match héroïque. Et après, voilà, donc le bonus est arrivé avec cette qualification en demi-finale. Je crois que le Maroc a des atouts à faire valoir. Attention justement donc à la France. C'est vrai, la France part favorite, mais attention à cette formation marocaine qui aujourd'hui est la révélation donc de cette compétition.
Et comment ces victoires, celles du Maroc puis celles de la France, ont-elles été célébrées au Togo où vous êtes situé?
Au départ, les uns étaient résignés par rapport donc à cette déclaration de Boufal, mais après ils sont revenus donc à la raison dans la mesure où le coach a fait une contre-déclaration pour dire que le Maroc représente l'Afrique, le Maroc transporte le football africain. Et à partir de là, lorsque le Maroc allait affronter le Portugal, ils étaient tous derrière le Maroc. Mais il y a une partie qui était réservée par rapport donc au Portugal à cause de Cristiano Ronaldo. Mais finalement, c'est ce public important qui supportait le Maroc qui a pris le dessus. Je crois que le Maroc est bien soutenu et cette victoire marocaine a été vraiment célébrée donc au Togo. Et aussi la France, hein, puisque pratiquement les Togolais supportent bien donc la France avec justement les joueurs qui viennent un peu de l'Afrique. Je crois que ça a été célébré et que avec cette confrontation en demi-finale, ça sera très compliqué donc de voir tout le Togo par rapport derrière le Maroc. Ça sera compliqué également de voir tout le Togo derrière la France. Ça sera un public qui est divisé, partagé. Mais je crois qu'avec le temps, le beau football sera supporté.
Franck Orokoti, journaliste sportif, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Une adolescente palestinienne a été tuée lors d'un raid de l'armée israélienne. Cela s'est passé à Jenin, en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé qui indique que la jeune fille, âgée de 16 ans, a été touchée d'une balle dans la tête lors d'affrontements qui ont éclaté au cours du raid. Une exécution publique en Iran. Un homme condamné en lien avec les manifestations qui secouent le pays depuis près de 3 mois. Il a été condamné à mort par un tribunal de la ville de Mashhad dans le nord-est pour avoir tué 2 membres des forces de sécurité. Il s'agit de la 2e exécution liée à la contestation après la pendaison jeudi dernier d'un homme de 23 ans reconnu coupable d'avoir attaqué et blessé un paramilitaire. La justice iranienne affirme avoir prononcé jusqu'à présent des condamnations à mort contre 11 personnes en lien avec les manifestations, mais les militants assurent qu'une 12aine d'autres personnes font face à des accusations passibles de la peine de mort. Il est soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse. Le Libyen Abou Aguila Mohamed Mazoud a été placé en détention aux États-Unis. Cet attentat en décembre 1988 avait provoqué la mort de 270 personnes. Les documents judiciaires décrivent le suspect comme un expert en fabrication de bombes qui a rejoint les services de renseignement de l'Organisation de sécurité extérieure de la Libye dans les années 70. Un homme qui a pris part à un certain nombre d'opérations en dehors de la Libye et qui a atteint le grade de colonel en Libye. C'était il y a 17 ans l'assassinat du journaliste et député de Beyrouth Gebran Touéni lors d'un attentat à la voiture piégée dans la capitale libanaise, un assassinat le 12 décembre 2005. Le 14 mars 2005, Gebran Touéni prononçait son serment dans lequel il appelait tous les Libanais, musulmans et chrétiens, à rester unis pour l'éternité. Nous y reviendrons dans votre journal de 17h30 avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine. La fin ce lundi du procès de l'attentat de Nice, après plus de 3 mois d'audience, il s'est achevé avec les derniers mots des accusés avant que la cour d'assises spéciale de Paris ne se retire pour délibérer. La cour rendra son verdict ce mardi dans la salle des grands procès du palais de justice de Paris. L'attentat le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais de Nice. Elle a eu lieu vendredi dernier, la journée nationale de la laïcité. La date du 9 décembre coïncide avec la date du vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. La laïcité qui est une chance pour chacun d'entre nous, nous dit l'ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité, Nicolas Cadenne.
La laïcité est un principe, un outil qui va nous permettre de faire du commun, de faire ensemble, plus que de vivre ensemble, de faire ensemble, de dépasser nos appartenances propres pour faire du commun, construire ensemble notre pays, notre avenir, notre vie au quotidien. C'est quelque chose qui ne peut que rassembler, en aucun cas diviser, comme on l'entend parfois.
C'est parfois mal compris, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
Oui, la laïcité est peu compris, mécompris, et c'est un vrai souci, parce que du coup, ça va mener à de mauvaises applications qui peuvent exclure, alors que la laïcité ne peut normalement que rassembler. Donc effectivement, il faut rappeler ce qu'est vraiment la laïcité, à savoir la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, de recroire, la liberté d'exprimer des convictions quelles qu'elles soient et de discuter en respectant l'autre, quelles que soient ses convictions également. C'est aussi l'égalité de toutes et tous, quelles que soient nos appartenances, nos identités, nos convictions ou croyances, devant l'État, devant l'administration publique. C'est ce qui va aussi nous permettre d'avoir notre citoyenneté commune avec des droits et des devoirs équivalents, égaux, quelles que soient là encore nos appartenances, avec le respect de l'autre, quelle que soit son identité. Et c'est tout cela qu'il faut rappeler, avec un État qui est neutre, qui est impartial, qui traite tout le monde de la même façon. C'est l'État qui est neutre, ce ne sont pas les citoyens qui, eux, grâce à la laïcité, se voient offrir une grande liberté.
Vous soulignez que c'est une chance pour chacun de nous.
Oui, la laïcité, c'est une chance par rapport à certains régimes où, effectivement, il y a une inégalité dès le départ. Si on n'a pas la bonne religion, la bonne croyance, la bonne conviction, on ne va pas forcément être traité de la même façon. Or, en France, qu'importe sa religion, sa croyance, sa conviction, d'où on vient, on a les mêmes droits. Alors, parfois, tout cela n'est pas bien appliqué. Parfois, il y a des discriminations à raison de ce que l'on est. Et ça, c'est inacceptable. Mais notre régime laïque, justement, permet de poursuivre ceux qui sont auteurs de discrimination. Donc oui, c'est évidemment une chance.
Et c'est aussi ce qui donne sa singularité à cette République.
Oui, c'est la laïcité, qui est aussi une singularité de notre République, encore que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays, à l'inverse de ce qu'on entend parfois. C'est vrai qu'en France, c'est quand même un principe qui est très poussé dans notre droit, très inscrit, même si on le retrouve ailleurs. Mais il y a parfois des règles un peu différentes, effectivement, que l'on retrouve en France, mais ça va toujours être pour assurer la paix civile, pour assurer le vivre ensemble, le faire ensemble, la pluralité. Laïcité et pluralité vont ensemble, et notre pays est très divers, connaît énormément de concitoyennes et concitoyens d'horizons divers et de convictions et de croyances diverses. Et c'est grâce à la laïcité que, malgré ce, cette diversité devient une richesse.
Le fait que ce soit parfois mal compris, voire dévoyé, comment l'expliquez-vous ?
Le problème, c'est qu'on entend beaucoup d'absurdités sur la laïcité, beaucoup d'affirmations erronées sur la laïcité dans beaucoup de médias, de la part de chroniqueurs, de polémistes, d'éditorialistes, je ne sais pas, mais également sur Internet. On entend beaucoup de choses fausses, y compris parfois même émanant de responsables politiques, il faut bien le dire, qui vont raconter absolument n'importe quoi, qui vont utiliser la laïcité à des fins politiciennes, qui vont même parfois l'utiliser pour diviser, pour stigmatiser, pour exclure. Tout cela est absurde et c'est contraire avec ce que c'est vraiment, avec l'essence même de la laïcité qui a été conçue à une époque où les Français étaient divisés en raison de leur religion, qui a justement été conçue pour faire ensemble, pour réunir tout le monde et traiter tout le monde à égalité.
Vous êtes le cofondateur, Nicolas Cadenne, de la Vigie de la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la mission de cet organisme ?
Oui, la Vigie de la laïcité, c'est un organisme citoyen composé de personnalités diverses, hein, des acteurs de terrain, mais aussi des sociologues, des anthropologues, des juristes, qui est là pour accompagner les acteurs de terrain, que ce soit les enseignants, les éducateurs, les encadrants associatifs, les fonctionnaires, pour les aider dans leur pratique au quotidien de la laïcité, pour leur expliquer comment bien l'appliquer. C'est aussi un organisme qui est là pour animer des temps d'échange avec les jeunes, qui eux aussi ne sont pas bien connaisseurs, ne comprennent pas bien la laïcité, ou parfois même la voient comme quelque chose d'attentatoire à leur liberté. Et donc, on est là pour aller sur le terrain et aider tous les praticiens de la laïcité, tous ceux qui la vivent au quotidien, pour mieux la comprendre, mieux l'assimiler et pour mieux la mettre en pratique.
Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 18 à midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Kader Chiban, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional, conseiller municipal de Saint-Denis. Pluriel, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.